Marcel Marceau, je veux bien faire une entrevue avec vous, mais est-ce que vous parlez?
Bien entendu.
Vous parlez?
Oui, je parle et j'aime même parler.
Vous aimez parler? Mm-hmm. Mais vous préférez le silence peut-être?
C'est-à-dire que le silence pour moi c'est un choix comme un musicien emploie un instrument qui est la musique. Maintenant dans le silence, j'emploie souvent la musique. Mm-hmm. Mais en effet je ne parle pas parce que je crois que mon art se définit très bien par le silence. Parce qu'il reflète profondément les aspirations d'un être humain et qu'il est le reflet peut-être aussi de notre conscience, de notre subconscient, et que créer avec son corps tout ce que la parole ne peut pas dire me semble très intéressant.
Je pense que vous venez d'établir là certains éléments que nous pouvons approfondir, n'est-ce pas? Je voudrais d'abord vous demander maintenant, justement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous que d'être un mime, n'est-ce pas? Dans le mime, il y a toujours l'idée de... Première idée, comme ça, c'est de dire j'imite, n'est-ce pas? Mimer, imiter, ça semble des idées assez connexes, assez
proches. Oui, de toute manière, quand on regarde les encyclopédies, on s'aperçoit que sur ce plan-là, il faudrait demander à un spécialiste d'écrire sur le mime, parce que le mime n'est pas l'art d'imiter déjà, c'est l'art de recréer les gestes de l'homme, de recréer l'essence même de la vie, et rien que cela est déjà faux au départ lorsqu'on dit mime, imiter. Donc, et ensuite, le mime est un art, comme la parole est un art. Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas écrivain. Tout le monde chante, mais on n'est pas nécessairement chanteur. Et je crois que l'artiste est l'être humain qui a su choisir et donner un style à une discipline. La discipline du mot, c'est de pouvoir écrire avec des... de pouvoir écrire et de dire l'essentiel, de créer des images avec de l'économie et de susciter et d'élever l'imagination. Et c'est l'artiste qui sublime la réalité et le quotidien et le transforme par son artifice, par son art justement. Il arrive à créer le mystère, la poésie et ce qui touche et enchante et étonne l'homme. Et je crois qu'en ce qui concerne le mime, puisque je m'occuperai peut-être de ma discipline, c'est de retrouver l'essence même du geste qui fait que, sans la parole, celui-ci devienne limpide et clair.
Un geste limpide et clair.
Clair, oui, pas bavard.
Donc un geste transparent qui conduit à autre chose.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas remplacer des mots par des gestes, mais il faut faire chanter son corps comme un musicien fait chanter son instrument. Et l'instrument étant le corps, il devient lyrique, tragique ou comique. Donc, la difficulté, c'est de créer une grammaire. N'est-ce pas?
Vous allez trop vite pour moi.
Pardon?
Vous allez trop vite pour moi.
Oui.
Vous me dites faire chanter son cœur. Je suis obligé de vous demander, n'est-ce pas, quelle différence il y a entre vous et, par exemple, le danseur. N'est-ce pas? C'est la chose la plus évidente.
C'est une affaire de poids.
De
poids. C'est-à-dire que le danseur s'élève au-dessus de son propre poids, s'élance pour se libérer de la pesanteur. Je parle maintenant de la danse classique. Oui. Et pas des dérivés qu'il y a eu depuis la danse classique,
c'est-à-dire la danse moderne. La danse de
Béjart, alors là nous arrivons à des problèmes beaucoup plus importants, c'est-à-dire que la danse dans son essence, c'est l'art de l'élévation, l'art de la non-pesanteur, où le danseur déchirant l'espace d'un bond par des attitudes et une grammaire bien spécifique, il arrive à se libérer de cette pesanteur, crée des allégories, des symboles et fait chanter son corps avec, en s'appuyant sur la musique. Maintenant, il y a eu, depuis la danse classique et académique ou classique, il y a eu la danse moderne. C'est l'influence de plusieurs cultures. Il y a les danses d'expression qui sont venues de l'école allemande, celles qui sont des danses, la danse moderne américaine, sorties du jazz, sorties de la culture noire, de la culture indienne, de différentes cultures et de la culture européenne qui viennent peut-être même de l'Europe, c'est-à-dire de cette Allemagne de expressionniste. Je parle des ballets jaunes dont peu de gens se rappellent, mais ou de Marie Wigman ou de Kreutzberg, de ces premiers chorégraphes qui ont influencé des chorégraphes américains. Alors, l'acteur devrait être historien et honnête, c'est-à-dire qu'il devrait avoir la décence, quand il crée un art, de ne pas se prendre pour le pape, mais se prendre pour quelqu'un qui continue ce que d'autres ont déjà fait, mais peut-être d'une manière différente. Parce que je ne pense pas que l'homme invente totalement.
Oui.
Je pense qu'il réinvente ce qui a déjà été dit et de ceux qui ont ouvert les portes, et il y a une continuité.
On reviendra tout à l'heure sur la continuité qui est la vôtre, voilà. N'est-ce pas? Mais revenons précisément à cette comparaison.
Donc, dans la danse moderne, par exemple, il y a des éléments qui peuvent ressembler au mime, parce qu'il y a parfois le silence, le corps ne bondit plus, il y a parfois des mouvements au sol, il y a des ralentis. Il faut donc prendre un art, non pas dans ce qu'il est devenu maintenant, mais dans son essence. Qu'est-ce qu'il était à l'origine? À l'origine, il y avait la danse qui se séparait très nettement du mime. On introduisait le mime comme intermède dans la danse, mais quand on ne savait plus vraiment danser. Alors c'était un caractère mimé, un personnage qui ne parlait pas, qui ne dansait pas beaucoup, et qui était un personnage de caractère qui mimait avec des gestes. Et ensuite, la danse est allée plus loin. Elle a créé dans certaines écoles comme en Russie, dans le folklore même, dans l'expressionnisme même de leur art, danser, il y a des anecdotes, des histoires qui sont des pas dansés et très vivants. C'est un peu la pantomime. Il en est de même dans la danse espagnole, qui a un caractère très spécifiquement folklorique aussi, d'essence gitane, où le danseur déchiré entre le ciel et la terre crée justement avec ses doigts et ses mains toute une cosmologie mimée presque. Mais bien entendu, le zapateo, c'est quand même le caractère et celui de la danse. Mais il y a beaucoup d'expressions. Or, le mime, lui, se propose ni de danser, ni de jouer avec uniquement donnant une interprétation au geste comme dans le mudra indien. Il recrée complètement un langage qui lui est propre et indépendant de ces deux disciplines, tout en reconnaissant qu'il y a certaines influences. Exemple, nous avons pris dans la danse classique l'en dehors, le port de tête, l'attitude classique des mains, et certaines attitudes qui sont venues de notre cousine, la danse. Mais là où cela diffère, c'est dans le poids. Le mime est un acteur issu d'une statuaire mobile, rivé au sol, un peu comme Prométhée enchaîné, et qui raconte, sans parler, la tragédie humaine, le tragique et le comique. Soit par symbolisme, le corps ne raconte pas une histoire avec des mots, mais propage avec des gestes un symbolisme que le public comprend comme la poésie, mais il faut une certaine clarté. Il faudrait donner des exemples, et on pourra en donner une dans la création du monde, on pourra voir un extrait de la création du monde, qui est tiré de la Genèse, où j'explique sans parler comment Dieu créa justement l'univers. Mais évidemment, ce sont des symboles clés. Il ne faut pas prendre, comme dans la Bible, on ne prend pas le mot « Dieu créa l'univers », il faut comprendre la divinité qui peut être en nous. Peut-être est-ce que l'univers a créé l'homme, l'énergie du divin a créé l'univers. Nous entrons là dans la théologie, c'est trop long. Beaucoup de livres ont été écrits là-dessus, qui parlent peut-être beaucoup mieux que moi de ce problème, même les grands théologiens. Mais l'artiste peut retrouver dans son art ce sacré qui est la source même de toute religion. Et c'est ce sacré qui fait que le geste naît. Prenons un exemple. La passion, c'est extraordinaire du point de vue mime.
La passion humaine. Vous
la passion même du Christ.
La passion du Christ.
N'est-ce pas? Le symbole de la crucifixion. Mm-hmm. Le symbole même de la passion. La messe, le signe, bénir. Tous les signes sacrés sont des signes que les hommes ont inventés, inspirés soit par Dieu, soit par eux-mêmes. Par le divin en eux, par le sacré en eux. Toute forme artistique est la révélation du divin que l'homme transmet. Peut-être est-il l'ange, cet ange qu'on cherche. C'est peut-être l'artiste, une forme d'ange et de démon, mais un démon qui n'est pas méchant, mais un démon qui...
Un daimon, comme disaient les Grecs, n'est-ce
oui,
pas?
Exactement.
C'est celui qui fait surgir les choses.
Le yin et le yang, n'est-ce pas, qui montre le bien et le mal, la confrontation de l'ombre et de la lumière. Alors, ceci, c'est intéressant parce que l'artiste, s'il est inspiré, retrouve d'instinct ces histoires clés. Pourquoi ai-je eu le besoin dans mon art de montrer la création du monde, la création de l'homme, la vie de l'homme de la naissance à la mort, la lutte entre le bien et le mal? Pourquoi me suis-je tourné vers l'onirique? C'est un besoin que j'ai eu, et c'est le besoin de l'homme pour redécouvrir les propres mystères de sa vie.
Oui, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, si vous permettez, Marcel Marceau. Vous nous avez parlé de langage, vous nous avez parlé de grammaire, vous nous avez parlé de tradition, n'est-ce pas? Je voudrais justement qu'on revienne un peu au début de cette tradition, tout au moins au début de cette tradition, pour vous, dans votre vie, n'est-ce pas? Qui vous a mis, enfin je sais bien qui vous a mis, c'est de Crous, c'est du lin, mais je voudrais que vous nous disiez donc ici
je pense
ce que vous devez à du Crous, ce que vous devez à du lin.
Oui, Eh bien, je pense qu'on est mime.
On est.
On est, naître.
C'est à la naissance, c'est inné.
Je pense qu'il y a quelque chose d'inné. Mais on peut former un mime par une école. Je crois beaucoup aux écoles, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs une école en France, et Decroux a eu une école. Seulement la différence est la suivante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mimes dans le monde. À l'époque où j'ai commencé, il n'y en avait pas. Je ne parle pas des mimes cinématographiques, Chaplin, Keaton, ouais, qui ont une dramaturgie propre et qui ont été des vrais mimes, qui ont eu le génie d'exploiter cet art, dont je dis exploiter dans le bon sens, sur le plan cinématographique. Ils ont lutté avec le visible, comme des poètes stylisés, Keaton, Chaplin, Stan Laurel et Hardy, même Harry Langdon, et nous, les mimes, nous luttons avec l'invisible.
J'en reviendrai là-dessus.
C'est important.
C'est important.
Mais à mon époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de mime au théâtre. Mm-hmm. C'est-à-dire, le mime n'existait pas au théâtre. Il y avait Decroux comme professeur de mime à l'école Charles Dullin, qui, depuis 10 ans, avait travaillé avec Jean-Louis Barrault, qui était son élève aussi, et qui est devenu par la suite le grand metteur en scène que nous connaissons. Mais Dullin et Barrault ont été engagés tous les deux à recréer les premiers éléments du mime, auxquels personne ne croyait. Decroux lui-même a été influencé par la danse d'expression allemande, par peut-être Isadora Duncan, qui dansait pieds nus au sol, qui, parce qu'elle recherchait la tradition de la danse antique, et par la statuaire, par Rodin, par... Et comme grammairien, il a eu l'esprit géométrique, un esprit mathématique, il a recréé ce qu'on appelle l'art du contrepoids. Faire vivre son corps en donnant aux objets un poids plus grand que dans la réalité, et avec le corps se mouvoir dans la lenteur comme une statue antique, c'était là le génie de Decroux, qui au lieu de retourner à la pantomime du 19e siècle, qui est une pantomime romantique, mais qui semblait peut-être dépassée, non pas dans son essence, parce qu'un art grand n'est jamais dépassé, mais je veux dire, on ne pouvait pas refaire peut-être cette pantomime blanche au 20e siècle.
Surtout avec le cinéma, justement.
Surtout avec le cinéma, vous avez raison. Donc il est retourné aux sources de l'Antiquité. Il a redécouvert, au fond, la statuaire mobile. Il n'a pas inventé la statuaire mobile, elle existait, vous n'avez qu'à faire tourner une statue sur son socle et vous n'avez qu'à prendre une caméra qui tourne autour d'une statue, ça y est. Mm-hmm. Mais comme Christophe Colomb avec l'œuf, il fallait y penser.
Il fallait y penser.
Voilà. Alors, j'ai commencé donc avec Decroux après Barrault et mon travail à moi, ça n'a pas été de rester un grammairien. C'est très important d'être un grammairien parce que c'est l'alphabet, comme la langue française, mm-hmm, ou n'importe quelle langue n'existerait pas sans les racines du mot, donc sans l'alphabet. Donc notre alphabet, c'est me servant d'un alphabet de Decroux qui existait, que j'ai appris, et un alphabet Marceau qui existait déjà, parce que quand je suis né chez Decroux, j'avais certaines pantomimes comme la japonaise, comme l'assassin, comme le désœuvré. J'avais une grammaire propre, mais instinctive. Decroux m'a appris à la codifier. Et ainsi, me séparant de Decroux, j'ai créé une troupe, et j'ai été le premier à créer un théâtre de mime sur le plan rapport avec un public, créant un personnage qui s'appelle Bip, mmh, qui est une espèce de Pierrot du XXe,
oui,
siècle.
On en reparlera, si vous voulez.
Et les pantomimes de style, éduquer un public, lui faire comprendre qu'il vient à l'art du mime comme on va à l'opéra ou comme on va à la musique ou au théâtre parlant, en éduquant le public sans avoir la prétention d'éduquer, parce que le public n'aime pas être éduqué.
Personne.
Et alors, par l'art des pantomimes de style, j'ai fait connaître au public l'art du mime en y apportant mes créations propres et mon style propre. J'ai inventé le personnage de Bip, qui est une espèce de Don Quichotte qui lutte contre des moulins à vent.
Ne me parlez pas trop vite de Bip, oui, je veux rester sur des choses.
Et une compagnie. Et ensuite, le théâtre des mimes est né. Et quand nous sommes partis en Amérique, avec le temps, parce que c'était en 55, eh bien, en 20 ans, une génération a pris conscience des mimes. Beaucoup sont repartis à Paris. Au Canada, par exemple, sont partis à Paris travailler avec Decroux, d'autres ont travaillé avec moi, et aujourd'hui, il y a pas mal de troupes de mimes. Mmh. Donc, ce qui était nouveau pour le public dans les années 50 et 60 ne l'est plus du tout maintenant. Alors là nous parlons maintenant de Marceau, n'est plus seul dans le monde du mime.
Il est seul en scène, parfois, souvent même, mais ça, il n'est pas nécessairement seul dans son métier.
Ouais, dans mon métier, non. Bon. Mais dans mon travail, pourtant, j'ai eu une troupe pendant 14 ans. Nous avions une troupe avec laquelle nous avons monté 26 mimes au drame. Mmh. Mais la génération actuelle, étant donné que je n'ai plus de troupe, mais seulement une grande école, la génération connaît Marceau sous le solitaire qui crée le visible, oui, par l'invisible.
Alors justement, si vous voulez, pour la suite de cette entrevue, de cette partie d'entrevue, j'aimerais que nous abordions trois thèmes, n'est-ce pas ? D'abord, le premier, c'est celui de vos mains. depuis le début, le public, n'est-ce pas, a pu voir à quel point vous gesticulez, comment vous parlez avec vos mains. N'est-ce pas? Ça m'apparaît extrêmement important. Et j'aimerais que vous nous parliez de l'importance de vos mains dans votre travail.
Je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'autre. Je pense que les mains ne sont pas plus importantes que les jambes ou le visage. Il faut tout faire parler. Ce ne veut pas dire que c'est visible. Saint-Exupéry un jour a dit « L'essentiel est invisible à l'œil ». S'il y a dans le non-visible une très grande force, dans la statique même, si je fais parler mes mains, c'est pas parce que j'ai besoin de m'exprimer, mais c'est que les mains apportent une musculature, une écriture, comme les jambes. C'est pour ça, dans les mains, par exemple, la lutte du bien et du mal, ce sera le bien, la force qui bénit, qui caresse, qui donne, le mal, n'est-ce pas, la lutte, la dualité, comme dans Dürer qui montre les mains, là les mains deviennent importantes. C'est un langage comme tout un corps. Donc les mains sont importantes quand elles définissent comme un corps une chose précise. C'est comme un danseur qui fait le saut et le pas de deux avec ses jambes et son port de tête et ses mains, mais tout est en action. Mais tout est situé aussi en sachant s'effacer devant le principal. Donc les mains sont utilisées quand elles sculptent l'espace d'une manière définie, très claire. Je prends une fleur, un mur, une table,
une chaise, un appui,
un verre, un symbole, une respiration, une germination, des oiseaux, un papillon, un poisson. Prendre, ouvrir la main d'abord, sculpter, être très clair et lisible. Le public va dire, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ça représente? Tout de suite, on le voit. Le visage, c'est la même chose. On dit, on ne faut pas grimacer, mais quand on grimace, c'est qu'on utilise mal son visage.
Puisque vous me parlez du visage,
mais le visage, pourquoi doit vous masquez comme un masque, par exemple? Ben voilà, très intéressant. Le masque est un symbole. Le masque blanc est un symbole, de même que les Indiens, les Hindous, utilisent un visage masqué, les Chinois également, surtout dans l'art extrême oriental et aux Indes. Et une convention. Nous ne pouvons pas vivre sans convention.
Comment vous sentez-vous quand vous vous masquez? Comment vous sentez-vous lorsque Marcel Marceau, le citoyen Marcel Marceau, disparaît?
C'est-à-dire le masque devient une transparence, une écriture, comme une feuille de papier sur laquelle on écrit un poème. Donc, le visage est blanc, sourcils, bouche déchirée d'un trait rouge, et le visage devient un masque qui exprime la douleur, l'étonnement, et les tons francs. Pas ce qui n'est pas le mensonge. Comment peut-on mimer le mensonge? On ne peut que parler le mentir, c'est la parole, hélas, mais aussi la vérité, tant mieux. Donc, le mensonge, c'est l'ambiguïté. Hein, je peux être sincère, avoir l'air sincère, je ne suis pas. C'est difficile à exprimer en mime. Alors le mime doit éliminer ce que la parole exprime mieux. Laissons le mensonge à la parole. J'aime beaucoup la beauté aussi de la parole, la vérité. J'adore la parole, puisque la preuve... On s'exprime, l'écriture sainte, c'est la parole, c'est merveilleux, il y a les mots-clés, les images, donc j'aime l'écriture. Mais dans le mime, il faut choisir l'essentiel pour qu'à l'intérieur de la discipline du mime, nous puissions exprimer ce que la parole ne peut pas exprimer. Qu'est-ce que la parole ne peut pas exprimer? Aussi bien, peut-être les métamorphoses, la dualité entre la vie et la mort, toutes les frontières de l'inexprimable, par justement cette chose qui change, la mélancolie, la vieillesse, la vie, la mort, l'amour, la joie, la haine, la souffrance, et tout ce qui est intermédiaire sont des transitions. Donc le mime doit briller dans l'essentiel, dans l'essence même. Et quand je disais tout à l'heure que j'aimais la passion, parce que c'est justement un symbole. La passion du Christ est un symbole.
Symbole de cette solitude, précisément, affreuse.
Symbole du martyr, de la croyance, de la mort et de la résurrection possible de l'homme. Symbole de toute la lutte entre le bien et le mal. Et trouver à travers l'essence même du verbe, action, cette fois-ci, pas mot, action, tous les secrets des origines de notre existence, les secrets de la création du monde. Où est le divin? Quelle est la part du divin? Quelle est la part de l'homme? Quand l'homme est-il divin? Quand l'homme n'est-il pas divin?
Quand le divin se fait-il humain aussi?
Quand le divin se fait-il humain? Donc peut-être que l'art est un des derniers mythes dans lesquels l'homme, derrière lequel l'homme puisse se réfugier pour recréer une vie qui lui semble parfois inacceptable dans sa réalité et qu'il recrée pour échapper peut-être à certaines angoisses. l'angoisse justement de savoir que nous sommes mortels, l'angoisse de savoir que d'un moment à l'autre la civilisation peut être détruite par le mal, par la destruction, par la guerre, et ce besoin de se recréer, de revivre, ce qui fait que si l'humanité vit toujours, c'est peut-être parce que les anges, ce sont les créateurs. Mais n'est pas seulement artiste, un artiste sur une scène de théâtre. Je n'ai pas la prétention de dire cela. Je pense que l'artiste est un frère voyant qui ouvre des grandes portes, et qu'un artisan peut être artiste également. Un savant peut être artiste. Tout homme qui crée, pour moi, est un artiste. Mais nous sommes des artistes de théâtre. Et les autres sont des artistes dans un laboratoire, un artiste qui crée le problème du cancer pour pouvoir vaincre qui crée l'anti-cancer, ou le savant qui... Bah Einstein est un symbole, n'est-ce pas? Alors, je veux dire par là que je vais passer d'Einstein à un cordonnier qui va être un artiste en travaillant.
Et qui lui aussi
est un créateur. Oui, c'est-à-dire que le besoin de sculpter, le besoin de travailler la poterie, le besoin de laisser une empreinte, quelle qu'elle soit, le besoin de faire des enfants,
le besoin de faire être,
le besoin de faire naître quelque chose, un enfant, une œuvre d'art, un peintre, tout ce que l'homme peut créer de sa main, tout ce qu'il peut montrer d'une manière tangible par la métaphysique de l'inexprimable est un acte de création, et c'est pour ça que tout homme porte en lui le divin. Voilà.
Vous nous avez dit tout à l'heure, et je pense que c'est très important pour vous, n'est-ce pas, que votre art doit faire pénétrer dans l'invisible, n'est-ce pas, ou doit faire surgir l'invisible dans le visible.
Exactement. Le visible dans l'invisible, l'invisible dans le visible. Et c'est un acte de poète. Le poète crée l'univers de l'invisible et le rend visible. Et encore, il le fait en apportant le style. Sans le style, nous ne pourrions pas reconnaître ce miracle du visible et de l'invisible, ou ce miracle de l'écriture, ou du son, ou le miracle de l'artiste qui communique et qui fait. Je dis toujours à un élève, ce n'est pas parce que tu vas pleurer en scène ou que tu es sincère que le public est ému. C'est que tu vas donner l'image de l'émotion. Et ce que tu dois rendre visible, ce qui est à l'intérieur de ton cerveau et qu'on ne peut pas voir, tu dois donner l'image d'une idée,
oui,
l'image,
mais...
et c'est ça le difficile, et c'est ça le propre de la danse ou du
livre. Je trouve qu'il y a là quand même quelque chose d'un peu contradictoire.
Mais heureusement, d'ailleurs.
C'est-à-dire que le style, me semble-t-il, est quelque chose de tout ce qu'il y a de plus personnel.
Non, le style est de plus contradictoire. Vous avez dit une phrase qui est très belle. L'art ne peut pas vivre sans contradiction et sans contrainte. Étaler l'art dans le naturel n'existe plus. Mais tout ce qui est contrainte, faites un geste naturel et ce n'est pas de l'art. Mais prenez l'antinaturel et vous créez l'art. C'est toute souffrance, c'est la souffrance. L'art naît de la souffrance, pas de la joie.
De la souffrance.
Exactement.
Et je comprends bien, vous êtes un homme qui souffrait beaucoup.
Pas seulement moi. Non, mais cette joie que j'ai, c'est de savoir que je souffre en créant. Il n'y a pas d'artiste qui puisse créer sans souffrance, parce que si on s'installe dans la complaisance de ce qui est naturel, nous ne faisons qu'imiter la vie.
C'est-à-dire que vous acceptez donc de ne pas vous bloquer sur votre propre souffrance.
Exactement. Ah oui, il faut qu'à travers la souffrance, j'amène la joie. La joie par la souffrance.
Quelle joie?
Eh bien, la joie d'avoir créé, d'avoir apporté, d'avoir fait rire les gens quand on devrait pleurer. Vous pensez que lorsqu'on fait rire les gens, la seule personne qui ne rit pas, c'est celle qui est victime. Or, j'ai toujours vu les gens rire quand on glisse sur une peau de banane, mais la personne qui glisse sur la peau de banane ne rit pas. Donc, tout le drame, prenez Chaplin, Keaton, regardez ce visage de tragédien, et nous rions, parce que c'est ça, nous rions de ce qui est absurde. On disait que l'humour est, au fond... la politesse, comme disait Ionesco, on lui demandait un jour, qu'est-ce que c'est que l'humour? C'est la politesse du désespoir. Et c'est absolument juste. Et c'est, je veux dire par là qu'il y a dans toute forme d'art la nécessité de nous montrer avec un scalpel l'absurdité parfois de la vie et aussi la beauté de la vie, le miracle de la vie.
Oui, ça c'est le message un peu de votre art, n'est-ce pas?
Je pense que c'est l'essence même de notre art.
C'est l'essence de votre art.
Oui.
C'est ce qui fait que votre art est un art.
Pas seulement le mien, tous les arts.
Mais justement, je voudrais savoir aussi en quoi cet art peut tout à coup devenir le mien. Vous êtes mime, m'avez-vous dit, de façon innée.
Oui.
Mais ce que vous avez de façon innée et que vous tâchez de me communiquer par toute votre vie, par tout le métier qui est le vôtre, n'est-ce pas? En quoi cela peut-il tout à coup devenir aussi mien?
Parce que vous devenez moi. C'est très simple. C'est ça l'identification. À partir du moment où je vous touche, vous n'êtes plus vous, vous êtes moi. Et moi, je deviens vous. Et c'est ça la communion extraordinaire entre les hommes. C'est ce qui fait que l'artiste est un frère voyant, et je dis bien frère, c'est que par l'art, il n'y a plus de nationalité, plus de religion, plus de frontières. nous exprimons l'essence même de la vie. Et ma foi, je trouve extraordinaire qu'à travers ces millénaires, à travers ce conflit, ces déchirements qui existent depuis tant de siècles entre les guerres et la paix et la guerre, l'homme ait survécu, peut-être parce qu'il y avait ces anges qui ont permis à l'homme de croire encore que la bonté est possible, que l'amour est possible. Grâce à ces exemples, on parlait de la passion, on croit, malgré les déchirements, malgré l'Inquisition, malgré l'Holocauste, malgré la bombe atomique, nous ne voulons pas croire que l'humanité puisse être détruite et notre civilisation réduite à néant.
Si demain, si ce soir, là, dans quelques minutes, je vous annonçais que la guerre vient d'éclater, la guerre mondiale,
elle existe déjà.
Vous pourriez ce soir monter et jouer Bip?
Je devrais jouer Bip, parce que l'artiste doit recréer à tout moment, dans n'importe quelle circonstance proposée, la tragédie et la comédie de l'être humain, jusqu'au dernier moment. Parce que jouer n'est pas s'amuser pendant que les autres travaillent. C'est justement, l'artiste travaille exactement comme un chirurgien qui a une opération et qui va sauver la vie d'un homme. Moi j'ai l'impression que j'ai en charge 2000 personnes qui tous les soirs vivent 2000 vies. Et qui à un certain moment, ces 2000 personnes vont oublier leurs origines, vont oublier leur séparation, leurs différentes pensées pour ne faire qu'un. C'est un peu comme dans le bouddhisme. Au fond, toutes les religions ont les mêmes sources. C'est pour ça que les religions ont souvent séparé les hommes par leur fanatisme, alors que la vraie religion, c'est la croyance dans le divin qui est dans l'homme. Et c'est comme ça que le monde est né, je crois. Mais l'art, c'est justement cette façon d'exploser de temps à autre pour apporter à l'homme son propre reflet et lui montrer, attention, nous sommes comme ceci, tiens, nous sommes comme ceci. Alors il y a l'art métaphysique, il y a l'art social, il y a montrer son époque à travers des incidences sociales, critiques, sans être moraliste, nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais montrer l'homme, tiens, c'est comme ça que nous sommes, nous rions donc pour ça, alors qu'on devrait en pleurer. N'est-ce pas, Molière, enfin, je n'invente rien en disant cela, c'est évident. Mais dans un art qui est celui du silence, pour revenir au mien, si on veut bien, je m'excuse de parler de moi, mais
c'est pour ça que vous êtes là.
L'artiste doit avoir une forme de narcissisme, mais pas un narcissisme où il va se tuer parce qu'il s'aime trop, il va se noyer parce que l'artiste doit être lucide. C'est un narcissisme pour l'homme, pour donner à l'homme le meilleur de lui-même. Et parce que là, si l'homme peut admirer notre art, il s'admirera lui-même. C'est au fond un partage extraordinaire.
Marcel Marceau, est-ce que vous êtes le père, le frère ou le sosie de Bip?
Je suis peut-être le père, le fils et le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, pourquoi pas, oui, dans le cahier.
Je suis un peu tout cela. Bien entendu, au début, j'étais le père de Bip, même quand j'avais l'âge d'être son fils. Bip est né en 47 au Théâtre de Poche à Paris, et j'avais écrit instinctivement, parce qu'on ne sait jamais quand on crée quelque chose jusqu'où ça va. À ce moment-là, j'étais influencé par Chaplin. J'avais déjà été élève de Decroux, donc j'avais déjà un esprit, un style théâtral, parce qu'il y a une différence entre le mime théâtral et le mime cinématographique. Le geste est plus elliptique, il y a une autre stylisation, le temps est différent. Et le personnage de Bip, je l'ai créé parce qu'il faut, le public a besoin d'un héros. Don Quichotte est un héros, je ne vais pas énumérer tous les héros qui existent, Robin des Bois, enfin tout ce qui vient d'Ulysse, Gulliver, bon, eh bien, Charlot.
Des grands personnages historiques.
Oui, personnages historiques, au théâtre, au cinéma.
Que ce soit ceux que l'on aime,
il faut un héros,
que ce soit ceux que l'on déteste, n'est-ce pas? Par exemple, le cardinal de Richelieu dans
les romans d'Alexandre Dumas. Parfaitement, oui. Eh bien oui, ce sont des héros, il y a les trois mousquetaires, ils sont trois, c'est plus un.
Voilà.
Bon. Alors, le personnage de Bip, c'est le continuateur de Pierrot. Pierrot était un personnage romantique français, je dis bien français, issu de la comédie italienne, peut-être influencé par Pietrolino. C'est un personnage qui avait un visage blanc, une souquenille, ce qu'on appelle souquenille, l'habit blanc, un gros pompon blanc, un serre-tête noir, une bouche rouge, des yeux en accent circonflexe, et un personnage romantique déchiré entre l'amour qu'il avait pour Colombine et les rodomondades d'Arlequin. Bon. Et alors tous ces personnages de la comédie française, en pantomime, pas la comédia dell'arte, mais la pantomime française, est mort d'une belle mort. On ne meurt jamais d'une belle mort. Mais je veux dire que, disons qu'elle est morte de vieillesse. Dans les premières années de 14-18, la pantomime a commencé à péricliter, la tradition s'est perdue, le cinéma muet a remplacé la pantomime théâtrale, et c'est vraiment le golden age du cinéma, sans que le public sache que c'était de la pantomime. Mmh. Le public croyait au début que Chaplin et Keaton ne parlaient pas parce que le parlant n'existait pas. Or, c'était vraiment des acteurs de mime. Il suffit de voir leur film pour s'en rendre compte.
C'est ça.
Le personnage d'Ubu a donc été créé au début, sachant cela, et se débarrassant très vite d'une éthique cinématographique, parce que le mime, c'est quand même le théâtre, avec le symbole du théâtre. Il fallait donc créer un personnage issu de Pierrot, comme je l'ai dit tout à l'heure, et y apporter ma dramaturgie propre. Et aussi, ce qu'il y avait en moi de jeune, d'enthousiaste, de romantique,
de frais.
De frais. Et d'ignorance aussi. Donc Bip est parti avec
la
fleur rouge.
C'est l'innocence aussi.
Oui,
c'est un innocent, Bip.
Oui, la fleur rouge, qui est le symbole de la poésie, qui tremble au bout d'un chapeau. J'ai inventé mon costume. J'ai repris un maquillage blanc, mais qui s'est adopté un peu, adapté à mon visage. Et après avoir inventé le costume, il fallait inventer le scénario, les histoires. Donc Bip était chasseur de papillons, dompteur, dans une soirée mondaine, patineur. Il fallait faire éclater une histoire sociale tragicomique, mais également, voilà ce qui était difficile, créer toutes les 20 secondes un événement qui suscite l'admiration, l'étonnement, le style, qui fasse rire ou qui fasse pleurer. C'est la virtuosité de l'artiste. Il ne suffit pas de raconter une histoire pour toucher les gens, il faut vraiment qu'il y ait un rebondissement sans cesse.
Il faut maintenir continuellement l'attention, j'oserais dire.
Il faut qu'il y ait un gag, presque tous les 10 secondes, oui. Il faut qu'il y ait un gag, ou alors c'est la pantomime triste, ou alors c'est une situation avec laquelle le public s'identifie. Mais même à travers l'histoire, elle n'est valable que s'il y a un événement qui est visuel. Bip patine était comique, non pas seulement parce qu'il s'imaginait être un grand patineur et qu'il ne savait pas patiner, mais parce qu'il patinait sur un plancher et non sur de la glace. Donc créer l'artifice de l'illusion par non seulement le non-visible, mais par autruchement de quelque chose qui est complètement impossible à faire. Comment peut-on glisser sur un plancher et créer la glace avec de bois? Il en est de même si je crée le dompteur sans lion, le papillon sans papillon. Alors, pour le public, tout ce qui devenait déjà naturel ne l'est pas. Il faut déjà créer la forme, donner le temps. Et quand j'étais jeune, je m'étais ému au fait que le public pleurait à la mort du papillon. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on pleure quand on tient un papillon? Et j'ai compris plus tard que ce n'est pas le papillon qui avait ému le public, mais c'est que le papillon qui meurt, c'était le cœur de l'homme. C'était la fragilité de l'homme qui court après son enfance comme un chasseur de papillons, qui court après les rêves, et c'est ce côté vulnérable de l'homme, n'est-ce pas ? Ça me fait penser au poème de... Je ne sais pas si c'est... Là, je vais être collé parce que c'est un poème...
Essayons à deux voix.
Ne touchez pas, il est brisé.
Ah oui, c'est Sully Prudhomme.
Sully Prudhomme avec son vase. Eh bien, c'est merveilleux parce que le papillon, c'était un peu cette solitude et ce côté vulnérable. Et alors, à travers tous les personnages du Bible, il y a cette dualité entre le vulnérable et l'invulnérable. J'ai à peu près 60 numéros de Bip, une centaine de numéros de pantomimes de style. Les pantomimes de style représentent un personnage qui peut être végétal, minéral, cosmique, pierre, démon, ange, objet. Bip est un personnage mortel. S'il meurt, c'est fini, il n'existe plus. Donc il rebondit chaque fois vers de nouvelles aventures, comme faisait Charlot ou Keaton. Mm-hmm. Alors Bip donc était marchand dans un magasin de porcelaine. C'est fragile, la porcelaine, on risquait d'être envoyé. Bip peut être pâtissier, il peut être employé dans un restaurant, il est toujours pris avec des métiers, ou alors il rejoint des mythes. Bip Don Quichotte, Bip rêve qu'il est Faust. Vous savez l'histoire de Faust?
Oui. Rappelez-nous-la quand même.
Eh bien, Faust est ce savant qui s'aperçoit à la fin de sa vie qu'il n'a pas vécu. Le diable, il fait un pacte avec le diable, et le diable lui dit: très bien, tu me donnes ton âme, et tu as 20 ans.
Je donne la jeunesse.
Et à 20 ans, il refait les mêmes bêtises qu'on fait à 20 ans. Mmh. Voilà, c'est la tragique.
Donc, si on peut dire, Bip est constant, mais Bip aussi vit en dehors du temps. Bip n'est pas atteint par le temps.
Bip n'est pas atteint par le temps. Merci, c'est d'ailleurs vrai. Dans le sens que j'ai un bon métabolisme et qu'à l'heure actuelle, je fais des tournées à travers le monde entier, j'ai vraiment l'impression que l'âge n'a pas passé sur moi. Quand je suis en scène, physiquement, peut-être parce que je m'entraîne et je joue 300 fois par an, peut-être parce que je suis directeur de mon école de mime et que j'enseigne toujours, le fait de faire cette gymnastique sévère avec mon corps fait que j'ai gardé à mon âge, j'aurais la coquetterie de ne pas vous révéler mon âge, en disant que je suis intemporel, si vous voulez.
C'est ça. Bon, en je dehors du temps, mais constant.
Voilà, je dirais que j'ai gardé le corps que j'avais à 25-30 ans. Et peut-être avec en plus, si vous voulez, la connaissance de mon métier maintenant, et fait que c'est une chance incroyable. Sans ça, j'aurais dû m'arrêter. Mm-hmm. Si j'étais un sportif, simplement un tennisman, je me fais peur, il y a 30 ans, il est déjà
c'est
vieux,
ça
me fait peur. Ouais, alors qu'en 30 ans, on commence à être un jeune homme, mm-hmm. on commence à savoir vivre. Et à 40 ans, on prend connaissance avec la vie. Bon, ça, c'est un autre problème. Je dirais que Bip est un personnage vulnérable, mais aussi préoccupé par l'angoisse de notre époque. Par exemple, dans Bip, aux prises avec le monde moderne et futur, on voit Bip comme personnage aux prises avec la mécanique. Vous savez, appuyer sur des boutons. Et un jour, j'imagine que rien ne marche. Et que Bip, à travers le temps, est hanté par ce qui lui échappe, le rêve, des cataclysmes qui peuvent arriver par l'homme-robot, par exemple. Et dans cette dualité, j'imaginais la fin du monde. Et Bip se retrouvait à l'état de singe. Vous savez qu'il y a une parabole dans laquelle les mimes emploient très bien. Dans l'histoire de l'humanité, c'est Prométhée qui a apporté le feu aux hommes et il a été ensuite
enchaîné.
Et je compare toujours le mime à Prométhée enchaîné. Eh bien, Bip, sans le vouloir, le singe, Bip devenu singe à un moment donné, trouve la pierre, invente le feu et à travers le feu, l'homme naît. Ce qui est absolument pas vrai, puisque ce n'est pas le singe qui a inventé le feu. Mais le public l'accepte, puisque c'est le singe qui, sans le savoir, frotte une pierre contre l'autre, il voit le feu, et à travers le feu, le masque de l'homme apparaît, et la marche de l'humanité commence. Mais au fur et à mesure que l'homme a... Et ce n'est plus Bip à ce moment-là. C'est la première fois où je ne suis plus Bip. Il ramasse son chapeau, c'est le chapeau de Bip, mais il est devenu l'homme, il est devenu vous, tout le monde. Et au fur et à mesure qu'il avance, il devient plus petit, il recule, parce qu'il mesure qu'il n'est qu'un point dans l'océan des espaces. Alors il y a des gens qui me disaient, mais c'est pessimiste, vous terminez. Je ne disais pas du tout, parce que malheureusement, c'est vrai, plus nous avançons, plus nous reculons dans l'histoire des temps. C'est pas pessimiste du tout, ça recommence.
Ça recommence.
Alors je veux dire, bon, alors, ça c'était un moment. Maintenant j'imagine, pour mon prochain spectacle à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, c'est encore le marathon du one-man show. Je voudrais faire Bip dans le meilleur des mondes. C'est une espèce de Candide qui imagine un monde merveilleux et il voit la réalité. Il chercherait peut-être à la remplacer par un monde meilleur. Il lui arrive des avatars sans arrêt, cette nostalgie du monde meilleur. Et finalement, quelle est la fin? Je n'en arriverai pas.
Il ne faut pas. Mais dites-moi, Bip, c'est un rêveur. Vous avez écrit vous-même, n'est-ce pas? Je l'ai devant moi. Les rêveries de Bip.
Oui.
Ah, c'est un rêveur.
Mais
qu'est-ce que ça veut dire,
moi,
la rêverie?
Pour moi, un rêveur est un homme d'action. Pour moi, un rêveur n'est pas l'homme qui rêve comme ceci. Pour moi, le rêveur, ce sont les bâtisseurs de cathédrales. Je crois que les rêveurs ont été les grands explorateurs, les hommes d'action sont des rêveurs. Parce que justement, ils veulent réaliser un rêve. Les grands navigateurs étaient de très grands rêveurs.
Mais qu'est-ce que Bip Marceau ou Marceau Bip veut réaliser?
Eh bien, il veut apporter aux hommes une part de ses rêves. Et pourquoi pas, ses rêves, ce sont les rêves de tout le monde. Tout simplement. Je disais un jour, et je dis ça à mes élèves, que tout homme porte en lui une caméra. Tout homme est un réalisateur de cinéma qui s'ignore. Chaque être humain a son propre scénario. Nous lisons un livre, on voit la couleur du visage du héros, ses cheveux, sa démarche. On imagine tout, on voit tout. On se raconte une histoire, tout le scénario est là. Mais quand il faut le jouer, c'est une autre affaire. Donc, comme j'ai déjà dit, je pense, avant, l'artiste doit choisir le geste qui crée le miracle de l'illusion.
Oui, je voudrais vous reprendre un peu autrement et sur le thème de la rêverie. C'est que vous vous rappelez sans doute, n'est-ce pas, Jean-Jacques Rousseau, dans ses rêveries à lui, les rêveries du promeneur solitaire, et oui. Bip est un solitaire
oui.
aussi. Hein. Jean-Jacques Rousseau nous dit que rêver, c'est rejoindre l'être dans ce qu'il a de plus essentiel.
C'est exact.
Alors je voulais savoir ce qui est pour vous essentiel.
Exactement. Et c'est pour ça que je crois que l'homme ne meurt jamais. Parce que tout a été dit. Et quand on croit avoir inventé quelque chose, on s'aperçoit que quelqu'un l'a dit avant vous. Mais il l'a dit d'une autre manière, ce qui change peut-être que la couleur des yeux, la forme du visage, nous nous ressemblons tous, mais un peu, mais on est toujours un peu différents. De temps en temps, un petit sosie arrive qui vous ressemble un peu davantage. Mais dans l'ensemble, la grande consolation que nous avons, c'est de savoir qu'après notre vie, d'autres vont rire comme nous, vont penser comme nous, et vont dire « Tiens, j'ai découvert ça !» Et s'apercevront « Zut, quelqu'un d'autre a dit avant !» Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'écriture personnelle, la manière spéciale de le dire. Alors, bien entendu, vous me direz, tout a été inventé, je ne suis pas sûr. Est-ce que le cinéma existait au XVIIIe siècle? Ah non, c'est vrai.
Oui, ce sont des formes, ça, quand même. Ce sont des formes.
Ah, le cinéma est quand même une très grande invention. Et je crois que la science est la grande révélation du XXe siècle. C'est même effrayant, parce que nous arrivons à l'âge atomique. Je pense que si l'âge atomique a existé avant, il a existé avant 2000 ans. Jamais il a existé, l'écriture a existé sans arrêt. Bon, je ne parle pas d'imprimerie, c'est plus tard. Bon, mais la grande invention du XXe siècle, c'est certainement pas l'écriture ni l'architecture, ni même la peinture. C'est dans la science, la médecine et l'âge cosmique.
Ah, ça, c'est ça vous préoccupe beaucoup.
C'est normal, ça nous préoccupe tous. Parce que j'imagine que dans un instant, on peut créer le miracle ou la destruction totale. Ce qu'on n'imaginait pas avant, parce qu'avant on se disait, les guerres, c'est terrible, mais le monde reste quand même vivant. Imaginons là, ce qu'on imagine, et que toute la civilisation soit détruite, qu'il ne reste plus rien. Je me refuse à accepter cela. Et c'est pour ça que Bip, pas seulement Bip, mais tout artiste ou tout créateur doit refuser l'anéantissement. C'est même, ça n'a rien à voir avec la mort. La mort, pour moi, n'est pas une fin.
Est-ce que ça vous préoccupe, la mort?
La mort, oui, certainement.
La vôtre? Celle des autres?
Vous savez, certainement que ma mort me préoccupe, mais par moments, elle me préoccupe moins, parce que je me dis, c'est peut-être la seule justice dans ce monde injuste. Voilà. Parce qu'il arrive un moment donné où tout le monde est sur le même plan. Il arrive un moment donné où tout le monde est sur le même plan. Maintenant, elle est injuste, parce qu'elle frappe des gens jeunes. Elle est injuste parce qu'elle interrompt la carrière, elle interrompt les rêves de certaines personnes. Mais si elle est un aboutissement, elle est absurde. Mais si elle est une continuation, elle est logique. Pour moi, la mort est un passage. Je refuse ma mort parce qu'à travers ma mort, plus tard, d'autres vivront. Je ne serai plus, mais il y aura une partie de moi qui sera en eux. Voilà. C'est une continuité. En disant cela, je ne fais que répéter ce que des grands philosophes ont dit, ou ce que les religions disent, et ce qu'on comprend mal. Je crois que la difficulté, c'est le malentendu. Les gens comprennent mal la Bible, comprennent mal les paroles clés. N'est-ce pas, quand j'étais petit, j'imaginais que Dieu, c'était un personnage qui était là et qui nous attendait, un monsieur assis. Et c'est une forme de mensonge, même pour les enfants. J'imagine un enfant qui apprend qu'on est mortel. C'est terrible. Il faut lui expliquer cela différemment. Et pas, attention, si tu fais un péché, tu n'iras pas au paradis, n'est-ce pas? Non, je crois que l'homme doit prendre ses responsabilités dès son jeune âge. Apprendre à vivre, pas pour lui, mais à travers les autres.
Oui.
C'est ça le cri d'amour.
Mais quand vous avez dit Dieu tout à l'heure, qu'est-ce que vous mettez sous ce nom-là?
Si, quoi?
Quand vous avez dit Dieu tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites quand vous dites Dieu? Qu'est-ce que vous nommez?
Dieu est en nous. Nous portons Dieu en nous. Je crois vraiment. La part divine est en nous. Et toute création porte la part divine. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous voulez, je veux revenir à Bip.
Oui, et je vais vous demander aussi quelque chose sur Bip. Oui. Non, dites-moi ce que vous voulez dire de Bip et moi je vous poserai ma question après.
Justement, j'ai senti que mon personnage de Bip ne pouvait pas s'appeler Pierrot. Parce que Pierrot était un personnage précis du 19e siècle qui correspondait à une époque. Il était immortel, comme Molière, dans ce qu'il faisait. C'était toujours les problèmes de la vie, de l'amour, de la solitude, de l'espérance, des avatars que tous les héros ont, de comédie ou de tragédie, mais il appartenait vraiment, comme dans un personnage de Kabuki, à une école précise de la pantomime française du 19e siècle. Bip est un personnage Spoutnik, comme Bip, Bip, Bip. D'ailleurs, j'ai inventé Bip avant le Spoutnik. C'est très drôle, mais excusez-moi, mais c'est vrai. J'ai inventé Bip parce que j'ai pensé à Pip de Dickens, et Pip était un personnage des grandes espérances. Et quand on est jeune, on a de grandes espérances. On dit « Monde, tiens-toi bien, je viens te conquérir ». On dit des grandes phrases. Il faut des grandes phrases pour y croire, comme les poètes, comme les écrivains, un côté pompier un peu. Mais ça fait rien, c'est des grands élans. Qui, vous savez, quand on est petit, le serment du jeu de paume, on est très image d'Épinal. Oui.
Les gestes héroïques.
C'est ça, les gestes héroïques. Et à ce moment-là, plus tard, on apprend la simplicité, on apprend la grandeur à travers la simplicité. Mais pour revenir à ce personnage de Bip et ce nom, Bip, c'était Pip. Ensuite, c'est devenu Bip. Et un jour, j'ouvre le journal, c'était France ce soir, en 1962, je crois, et je vois Bip, 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 le monde entier t'écoute. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'était le Sputnik. Ouais. Alors, donc, Bip, c'est ce personnage qui est mon alter ego, entouré de personnages invisibles qui ne sont ni pires ni meilleurs que lui. C'est un personnage poétique et burlesque de notre époque.
Mm-hmm. Bip va-t-il mourir?
Certainement. Et alors, voilà le problème. Le problème, c'est que Bip sera au cinéma. Il est déjà à la télévision ou en vidéocassette. Il est dans le dessin, parce que je dessine. Et pas par narcissisme, je m'excuse. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais vous ne dessinez que vous. Alors j'avais un peu de peine, parce que je me suis dit, si l'homme tout de suite voit Narcisse chez l'autre, c'est qu'il est très Narcisse lui-même. Je ne me suis jamais considéré comme un artiste quand j'ai parlé de moi. J'ai voulu exprimer et donner à l'autre, je deviens lui, je deviens vous. Vous comprenez, c'est formidable de devenir l'autre. C'est ça la communion.
Enfin, quand j'ai vu Bip, je me suis vu.
Vous êtes gentil, vous n'êtes pas Narcisse, c'est bien.
Je ne sais pas,
c'est oui, c'est ça.
Bon, je vais l'être voilà. Un peu, mais...
Je veux dire par là que donc Bip est dans des dessins, j'ai écrit l'histoire de Bip, et ensuite il prend conscience justement qu'il n'est pas seul. C'est qu'il est parmi des millions d'autres êtres humains et qu'il est une infime partie du monde.
Vous voyez, très bizarrement, c'est une confidence, si vous permettez, on ne dira à personne d'autre, n'est-ce pas? Oui. Ça reste entre nous. Enfin, pour moi, quand j'ai vu Bip, je me suis vu, si vous voulez, dépouillé, nu.
Voilà, c'est très bien. Je vous remercie.
C'est comme ça que je me suis vu.
Oui, c'est exact. J'aime la nudité dans ce sens, parce que le mime, par exemple, dans le silence, tout artiste d'ailleurs, mais je parle maintenant de mon expérience. Excusez-moi, mais je ne voudrais pas qu'on ait l'imagination de croire, ou qu'on y s'imagine, que notre art est supérieur à notre art. Au contraire, je crois que tous les arts se ressemblent dans leur magnitude, dans leur complexité, dans leurs inquiétudes. Mais je pars de mon métier, c'est celui que je connais le mieux.
C'est pour ça que voilà. Nous sommes venus vous.
Allez, alors Bip, pour moi, c'est le silence, le cri du silence.
Oui.
C'est dans la lumière, l'homme nu. C'est l'heure de la vérité.
C'est l'heure de la vérité.
C'est l'heure de la vérité.
L'heure de la vérité de l'homme.
L'heure de la vérité de l'homme. C'est pour ça que dans le fabricant de masques, par exemple, il prend des masques qui rient, qui pleurent. Il y a un masque qui ne peut pas arracher celui qui rit. Et au moment où il s'aveugle, il l'arrache, il est comme une crucifixion dans le moment de la solitude, où il ne triche plus devant les gens. Rire peut être gentil, poli. Bonjour, comment allez-vous? N'est-ce pas? C'est-à-dire se voir tel qu'on est. Le visage nu, à travers ses défauts, ses qualités, et s'analyser et apporter l'amour par un besoin, pas par une obligation.
Voilà. Mais pourquoi le cri? Parce que le cri, c'est un déchirement quand même.
Eh bien, le cri, pour moi, est silencieux parce que ce déchirement, c'est une communication, c'est une vibration. Et voilà ce que je dis aux élèves que j'ai à l'école.
Oui, je voulais qu'on en parle, oui. Aux élèves, justement.
Les élèves à l'école veulent s'exprimer. C'est pour ça qu'ils veulent faire du théâtre, ils ont choisi le mime parce que physiquement, c'est comme dans le sport, un besoin de s'identifier, de contact physique. C'est pour ça que le sport est si populaire. La danse, le sport, le mime. Mais l'élève s'aperçoit qu'il est paralysé. Ses sentiments le paralysent. Il veut s'exprimer, il veut montrer un grand héros et il s'aperçoit que sa sincérité l'aveugle, le paralyse. Que les passions qui sont dans son imagination, il ne peut pas les exprimer, et quel désarroi, quelle inquiétude. Alors on le détruit pour le construire. C'est ce que ça veut dire. On lui impose des conventions. On lui impose une règle, une discipline. On lui impose le cou, la tête, la poitrine, le torse, les mains, le bras. Et il est là, et il ne peut plus rien exprimer parce qu'il exprime une codification de langage qui, au contraire, le fige. J'ai dit bien le mot.
Oui.
Et dès qu'il est figé par une discipline de grammaire codifiée, peu à peu, l'imagination revient, l'improvisation au service de la technique fait qu'il peut s'exprimer à travers la discipline, il crée sa liberté.
Et vous ne pensez pas justement que cette discipline pourrait tout étouffer? Et on a quand même beaucoup accusé justement les disciplines d'étouffer toute créativité.
Les gens qui disent que les disciplines étouffent sont les gens qui n'ont jamais de discipline eux-mêmes. Et les gens qui disent cela sont ce qu'on appelle des amateurs éclairés, intelligents par l'intellect, mais ignorants par la discipline, qui vont dire n'importe quoi, qui vont dire « est moderne ce qui est actuel », ça veut dire à ce moment-là que Raphaël est dépassé. Ça ne veut rien dire du tout. Ce qui a été bon est toujours bon. Ce qui est valable à un moment donné et très fort reste intemporel. L'avant-garde d'aujourd'hui peut devenir l'arrière-garde demain. Avant-garde veut dire avoir créé un concept nouveau qui restera très longtemps. Ça, c'est l'avant-garde. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, je crois que les grandes disciplines immuables sont classiques. Picasso est déjà classique. Alors, je veux dire par là que on apprend ça dans une école. On apprend qu'il faut tout apprendre, qu'il faut tout codifier, qu'il faut créer la convention, comme la discipline du langage. Peut-on dire 5-6 mots à la fois, on ne vous comprend pas. Donc, de cette clarté, de cette précision et de cette discipline, naît la simplicité et naît la création, l'imagination et la complexité, bien entendu aussi.
Est-ce que vous avez des exigences au point de départ? Par exemple, je ne sais pas, moi par exemple, je me présentais à votre école pour devenir mime. Est-ce que vous diriez non, vous êtes trop vieux? Est-ce qu'il y a des exigences au point de départ?
Absolue. La franchise la plus absolue. Nous n'acceptons pas après 25 ans. Mm-hmm. Parce qu'il faut former, c'est une école de formation, et ce n'est pas une école complaisante parce qu'on va vous donner de l'argent, ou parce qu'il faut faire son métier, parce que le public paye. Au théâtre, vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même, pas vis-à-vis du public, parce qu'on accepte tout le monde. Mm-hmm. Le public est voyant, il regarde. Bah, le futur mime, je suis sûr que pour le danseur, toutes les disciplines, les musiciens, c'est pareil. Donc, encore une fois, parlant de moi, je parle de toutes les disciplines. Eh bien, on prend l'élève s'il est vraiment doué. Ça se révèle sur 3 ans. 3 années d'études. Toutes les disciplines. Alors, justement, voilà qui est intéressant. Nous n'apprenons pas que le mime. Parce que nous apprenons à l'élève à construire son corps, il passera par les disciplines de la barre classique, professeur de barre classique. Le jazz, danse moderne, nous avons choisi le jazz. On aurait pu choisir le style Martha Graham, nous avons pris le Mathematox comme style de jazz. C'est donc le jazz, danse moderne, l'escrime, le fleuret, l'acrobatie, et non pas pour faire un peu de fleuret, mais la discipline académique du fleuret, sens des distances, esquive, riposte. L'acrobatie, c'est le délire dans l'espace, dynamique, et bien entendu, mime. 4 professeurs de mime, 2 professeurs de danse, 2 professeurs d'acrobatie, 2 maîtres d'armes, bâton traditionnel. On aurait pu ajouter l'aïkido, les arts martiaux, le jonglage, pourquoi pas, mais les élèves viennent déjà de 9h du matin à 6h le soir, sauf le samedi et le dimanche, et cela sur 3 ans. Première année, tout apprendre par le corps seulement, pas d'improvisation presque. Ils ne savent pas improviser. Parce qu'improviser, c'est d'avoir déjà un très grand métier. Leur apprendre que tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est instinctif est très bien, c'est bien, mais n'est pas valable sur une scène. Donc, de temps en temps, on improvise avec ce qui est anti-technique, si on veut, et seulement dans la deuxième année, application de la technique au travail. Troisième année, l'acteur mime, la conscience, la connaissance du mimodrame. Et j'ai oublié une discipline importante aussi, l'art dramatique est intégré dans notre école aussi parce qu'on apprend à l'élève également à être comédien et à parler. Oui. Mais le but, c'est former des mimes à part entière, créer un théâtre des mimodrames comme il y a des écoles de ballet, des écoles de théâtre. Et en ce qui me concerne, je veux absolument recréer une troupe de mimes en 1985. Parce qu'avec une troupe, je peux également apporter d'autres sujets. Mm-hmm. Je ne dis pas dépasser Bible. Voyez-vous, je n'aime pas. L'homme a un besoin incroyable. C'est toujours de dire dépasser. Il établit un critère. Bon, ici on dépasse, là on est dessous, on est dessus. Ça c'est très important pour le poids. C'est très important pour une performance sportive. Mais peut-on dire que Tolstoï soit plus grand que Maupassant parce que Tolstoï a écrit des grands romans et Maupassant des petites nouvelles? Peut-on dire qu'une sonate est moins importante qu'une grande symphonie? C'est très dangereux. Alors moi je dis, il y a le microcosme dans le macrocosme et le macrocosme dans le microcosme.
Tout
l'infini
est dans tout.
Dans le petit point.
Je voudrais rapidement, Marcel Marceau, en une minute, une dernière question. L'école se termine, votre élève vous a quitté. Le spectacle se termine, Marcel Marceau se retrouve seul dans la rue, il n'y a plus de pipe, il n'y a plus que Marcel Marceau. Qui est Marcel Marceau?
Eh bien, Marcel Marceau, c'est un peu tout le monde, avec l'espoir de trouver dans tout le monde la poésie.
Marcel Marceau, je vous remercie.